eux, c'est nous. La soirée emblématique organisée par l'association La Redingote revient.
Le mardi 26 juillet, à partir de 17h30, rendez-vous sur la place de Vébron.
Une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage en faveur des migrants. Et oui, eux, c'est nous.
Au programme, un plateau radio avec Radio Bartas.
Et des concerts, Aubry.
Zare électrique.
Docteur Sax.
Eux, c'est nous, proposé par la Redingote.
C'est à Vébron le mardi 26 juillet.
En partenariat avec les Hebdo de l'été,
Réseau Éducation Sans Frontières
et Radio Bartas. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas en direct de Vébron pour cette soirée exceptionnelle qui s'appelle Eux, c'est nous. Et oui, évidemment, cette soirée est placée sous le signe du partage, comme vous venez de l'entendre, et aussi dans le cadre des hebdos de l'été. On n'a pas cité dans le générique le collectif Môme, évidemment, et Guillaume, tous nos amis qu'on salue. Et on a un peu changé le truc parce que les artistes vont nous faire le plaisir de venir en plateau alors qu'ils jouent vraiment dans pas très longtemps. Merci beaucoup à eux. Et pour commencer cette émission, nous sommes avec le groupe Zare Électrique. Arthur, bonjour.
Bonjour Ben.
Anas, bonjour.
Bonjour.
Et Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vachement éclectique tout ce qui se passe. Là, on a vu les balances, c'était absolument génial. Le son va juste être d'enfer. Donc, si vous êtes dans le coin, pas très loin de Vébron, bah venez. Si vous êtes dans votre voiture, là, faut juste venir. Aubry est avec nous. Bonjour Aubry. Ah, regarde, bonjour.
Bonjour.
C'est les aléas du direct. Et tu vas nous jouer un petit morceau en live dans quelques minutes.
Absolument, ouais.
Après l'interview des copains de Zare, on y va. Zare électrique, comment a commencé l'aventure de Zare électrique?
L'aventure a commencé en fin 2018 et vraiment période Covid avec Anas. On s'est rencontrés, on a commencé à créer le projet. Et ensuite, en 2021, Didier nous a rejoints.
Aux machines,
voilà.
Parce que il n'y avait pas assez d'organique, il fallait des machines en plus.
Non, en fait, ça avait déjà cette forme, mais on le composait nous et on lançait des. Enfin voilà, on avait toujours dans la tête de faire jouer quelqu'un, vraiment faire vivre l'électronique derrière.
Mais il manquait vraiment le côté électrique, tu vois, le côté électrique de Didier, un peu le côté foufou, le côté acide.
T'es d'accord avec ça, Didier?
D'accord avec quoi?
C'est manqué ce côté, parce que tu les connaissais avant?
Non, en fait, je les ai rencontrés sur Tinder, sur Facebook. En fait,
Tinder, ouais.
J'étais en plein confinement et en effet, ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé le projet. Ils m'ont envoyé le projet, j'avais trouvé ça cool, mais voilà, je voulais être pêcheur à ce moment-là, je voulais arrêter la musique. Et en fait, ça m'a plu, et puis du coup, voilà, j'ai trouvé ça cool.
Ok,
puis,
c'est bon.
Moi, comme ma vie, si tu veux.
J'avais été prévenu que vous alliez dire pas mal de conneries.
En fait, il y a eu une vraiment période un peu de doute. C'est le confinement. Je pense que tout le monde l'a vécu pareil, tu vois. Je me rappelle Arthur aussi, il voulait aller planter des patates dans les Cévennes. Tu vois, lui, il voulait être pêcheur. Enfin, du coup, c'était le bon moment en fait pour vraiment qu'on rassemble tous ces bouts et qu'on crée de la musique. Et je pense qu'on a bien fait.
Ouais.
Planter des patates.
Ça c'est clair. On vous écoutera tout à l'heure, et puis, enfin, en live, mais aussi un petit morceau pendant cette émission. Arthur, tu joues du cora, on dit
de la cora.
De la cora. Est-ce que tu peux donner une image radiophonique de ce qu'est la cora?
Oui, c'est très phallique. C'est une harpe à 21 cordes, c'est une harpe d'Afrique de l'Ouest, voilà, qui se présente avec une caisse de résonance, pas celle que j'ai, mais avec une calebasse qui fait caisse de résonance et un long manche qui tient ses 21 cordes.
On l'a entendu là sur la table sans doute, hein, t'es aussi percussionniste.
Voilà, je fais aussi des percussions, je peux pas m'empêcher, c'est l'enfer. Allez, ploc. Ouais, on a tous les deux avec Anas des tomes de batterie qu'on joue sur l'électro.
Et toi Anas, justement tu es au oud, Gembri, tu viens de le dire. Et le Gembri, pareil, une petite image radiophonique. Puisque le oud, je pense que.
Le oud, oui, c'est lutte orientale. Le Gembri, en fait, c'est un instrument, on va dire, millénaire. C'est qui a fait quand même la traversée de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Maghreb via les esclaves noirs qu'il y a eu au XIVe siècle. Et en fait, du coup, il vient raconter, en fait, c'est des chants à base... Bon, je ne vais pas parler de la musique gnawa, je vais d'abord finir avec les gembri, qui est une base traditionnelle africaine, et qui est à base d'un tronc d'arbre, et une peau de chameau, des cordes en boyau. Voilà, c'est pas très végétarien comme instrument, hein, mais ça envoie, ouais.
Et les véganes peuvent venir quand même.
Ouais, ouais, carrément.
Alors justement, on continue, tu étais sur ta lancée, les chants gnawa.
Alors les gnawa, en fait, c'est, voilà, c'est des esclaves qui revendiquaient en fait leur liberté à travers leurs chants, et ça s'est mêlé en fait avec aussi leur culture du voodoo, et du coup c'est ça qui donne un peu le côté un peu la transe, qu'on rentre en transe facilement avec les chants gnawa, des chants questions-réponses. Il y a aussi la percu, les toms, d'ailleurs aussi je joue des carcabous, enfin des crotales en fer qui donnent aussi cette image de leur chaîne en fait, tu vois le mouvement du chaîne, et voilà, donc et ça...
Musique médicinale quand ouais. même à la base.
C'est beaucoup spirituel, beaucoup
des cérémonies.
Est-ce que ça semble, Didier, de poser des machines sur des instruments entre guillemets un peu traditionnels comme ça? Comment t'as bossé?
En fait, c'est plutôt l'inverse. Ils avaient déjà, je pense, bossé à la base sur les instruments. Ils avaient fait des ébauches aussi, des morceaux. Du coup, après moi derrière, c'est plus sur tout ce qui est arrangement et texture sonore. Donc en fait, après ça se marie. Ouais, non, c'est pas très compliqué. Enfin, j'ai pas. Je sais pas intuitif, si c'est simple ou compliqué. C'était intuitif, voilà. C'est intuitif. Puis quand même, il y a un truc de trance qui est déjà dans ces musiques-là à la base, qui se marie parfaitement avec la techno, avec des rythmes un peu comme ça. Des rythmes trans aussi, le ternaire, on le retrouve aussi dans la trance, ouais. Dans la techno-trans aussi, du coup, ça sonnait comme une évidence aussi. Puis en termes de texture, le fait d'utiliser des synthés analogiques, ça vient aussi se rapprocher du grain des instruments organiques. Du coup, voilà, ouais, c'est...
Et après, il y a... Après, il y a toujours cette idée-là, en fait, entre la musique traditionnelle, en fait, il y a beaucoup de... Ça monte crescendo, tu sais, c'est un rythme long au début, et c'est une boucle, en fait, répétitive qui te fatigue un peu le cerveau, et c'est ça, en fait, qui va t'emmener à une transe, tu vois. Et nous, il y a eu toujours cette idée-là, en fait, de passer ce son-là, parce que le côté traditionnel avec la transe qu'on entend en électronique, en fait, je trouve vraiment qu'il y a un beau mélange là-dessus, et je pense qu'on a réussi vraiment à le trouver, ça claque après, tu vois, tu sais plus, est-ce que t'es vivant sur Terre.
Je vous pose la question à tous les trois, on va commencer par Arthur, c'est qui les artistes qui t'inspirent et qui te disent tiens, je veux tendre vers ça,
vers ce qu'on a créé là?
Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que sans se faire gonfler les chevilles, on est rentré là-dedans dans un moment où toute cette électronique orientale commençait vraiment à exploser. Donc moi, j'ai écouté, on s'est inspiré et j'ai écouté des gens comme Acid Arabe, mais ça marche beaucoup avec du sampling. Et nous, on a vraiment le côté live du musicien, avec des solos, avec des chœurs, des chants. Et ça, c'est vrai que ça arrive, mais enfin voilà, c'est pas encore très très présent, je trouve. C'était notre pari un peu de.
Et c'est très synthé, en plus, les acides arabes électroniques, c'est très synthé. Nous, on est très cordes. Donc tu vois, on a beaucoup de cordes aussi sur scène. Bon, il y a des synthés à Didier, mais il y a ce côté cordes qui frotte, en fait, qui donne un autre aspect, en tout cas, une autre couleur.
Donc acides arabes, pour toi, c'est exactement pareil.
C'est très synthé. C'est très synthé. Tu vois, les claviers, les mélodies. Nous, on les joue avec les cordes et des instruments surtout traditionnels. Et de goût, c'est ça qui...
Toi, Didier, qu'est-ce qui t'inspire?
Ce qu'on fait sur l'instant, en fait. J'ai pas vraiment de référence. Quand j'ajoute des parties machines, c'est purement ce qu'on est en train de jouer, ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont déjà donné avant. Et puis, je m'inspire de ce que j'entends pour... Mais j'ai pas une référence particulière.
On a pas de référence.
Ouais, en fait. Et puis d'ailleurs, cette couleur-là, finalement, dans toute cette veine de groupe là qu'il y a en ce moment, on est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui se mélangent électronique maghreb, mais il y en a très peu qui ont l'approche subsaharien, gnawa. Il y en a très peu qui font ce mélange, en fait. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de référence. Je pense qu'eux en ont parce qu'ils avaient cette culture avant aussi de ces musiques-là. Moi, pour ma part, je suis arrivé là-dedans. C'est eux qui m'ont fait découvrir cette musique, en fait. Donc juste, j'apporte mon savoir-faire électronique sur une base qui est déjà là, quoi. Donc, Donc voilà.
On parle de vrai partage, oui, Anas.
Et en même temps, en fait, il n'y a pas que le gnawa en vrai. Ouais. En fait, parce que Arthur, l'instrument qu'il joue, c'est du mandingue. Donc c'est aussi c'est une autre partie d'Afrique, en fait, qui joue ça. Et on retrouve beaucoup notre musique. En fait, on a du mal à définir, à dire oui, en fait, on joue le gnawa. C'est pas vrai. Non, en fait, il y a aussi des fois des moments où on part dans l'Andalousie, où on part dans les chants orientaux, ou arabesques ou quoi. Et en même temps, on va partir aussi sur les chants du sud, on va dire le côté africain, afro. Afro-Ouest, et du coup, c'est ça en fait, on a aussi du mal à définir, mais voilà, c'est art, on dit
c'est
comme ça.
C'est des compositions qu'on joue, donc en fait, oui, c'est des inspirations qu'on a amenées au milieu de tout ça. Mais...
Alors tout ça, c'est du partage, du brassage des cultures, et évidemment, vous êtes là dans le cadre des Hebdos l'été, mais dans le cadre de Eux, c'est nous, qui est cette soirée en soutien aux migrants. Justement, est-ce que les artistes, les arts doivent-ils être engagés, selon vous?
Oui, oui, complètement, ouais. Pour moi, oui.
Oui, carrément.
Tu peux avoir un avis différent. Hein.
Doivent-ils? Est-ce que ça dépend de l'art qu'on pratique, en fait? Mm-hmm. On ne peut pas être engagé. Si tu fais de la peinture, tu n'es pas obligé d'être engagé. Quoi. La plupart des gens, des fois, il y en a, ils font ça dans leur coin, il n'y a pas d'engagement politique. Après, faire de l'art en soi est un acte politique. Mais après, ça peut devenir compliqué. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'être engagé de façon consciente. Déjà, je pense que déjà, rassembler les gens sur une scène, enfin, devant une scène, c'est quelque chose de politique. Après, est-ce qu'on a un message? Est-ce qu'on a un discours politique engagé? Je sais pas.
Enfin, non, mais c'est autre chose. Par exemple, on s'est retrouvé à Marseille, il y a pas longtemps, on a joué pour une association de La Cloche, qui aide, donc on parle pas des migrants, mais tous les sans-abri à Marseille, et on fait ce concert bénévolement. Et même si pour l'instant, d'ailleurs ça va arriver, même si pour l'instant on n'a pas vraiment une chanson engagée sur ce thème ou quoi, de faire cet événement, de le faire avec plaisir et gratuitement, je trouve que c'est un engagement.
Et surtout l'engagement, je pense, c'est pas que, ça peut pas être que politique, c'est humain en fait, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Du coup, nous, en fait, vu qu'on fonctionne aussi beaucoup avec l'émotion, avec voilà, on est ouvert à tous les publics. À chaque fois, on a joué, on a eu des enfants sur scène, franchement, il y a des mamies qui viennent danser, qui te disent ça nous fait tellement du bien d'être avec vous, d'écouter cette musique, alors que nous, on pense qu'en fait, c'est de l'électronique, que ça pourrait leur faire du mal aux oreilles ou quoi. Mmh. Mais en fait, c'est pour ça, moi, je te dis, c'est aussi un engagement très humain, et on est sur un peu toutes les panels, et ça nous touche, en fait. Et du coup, jouer pour une association, pour des migrants ou des associations des sans-abri, on est là pour ça, en vrai. On fait de la musique, c'est notre mission pour accompagner tout ce monde-là. Et si on peut aider à quelque chose, on sera toujours là pour eux.
Je terminerai sur une petite dernière question. Quel regard vous portez sur la culture en France aujourd'hui? Comment elle se porte pour vous qui en êtes des acteurs de tous les jours?
Waouh,
qu'est-ce que c'est des questions
qu'on a à dire là-dessus, mais on n'aura pas le temps.
Ouais. Moi, j'ai vu quand même, on a tous vu un moment où les subventions se sont raréfiées, où des lieux ont fermé, où voilà, la part mise pour la culture en France par les politiciens, c'est quand même un peu amoindri. Mais bon, ça se bouge, et on est quand même, on n'est pas le pays le plus lésé là-dessus. Et on essaie de rider là-dessus, mais c'est pas toujours facile. Ouais.
C'est là-dessus qu'on va se quitter. Ouais, Anas, je sais pas si tu voulais dire.
Non, mais en fait, moi, c'est difficile d'avoir un avis là-dessus, parce que je viens du Maroc, donc c'est encore, je pense, pire, tu vois. Et surtout dans le monde rural, tu vois, vraiment, moi, je le vois, tu vois, quand on vient jouer dans le monde rural, je vois très bien comment ça bouge, en fait, les associations comme vous, ou des structures, et qui sont aussi des fois, bon, il n'y a pas beaucoup de subs, comme il dit, mais quand même, ils sont aidés. Enfin, il y a une petite volonté derrière, de gauche, ou je sais pas. Et ça, moi, je trouve que c'est très important que, par exemple, dans nos pays, on n'a pas du tout. Donc,
Vous jouez à 21h tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Zar Electric, merci à tous les trois.
Merci à vous.
On va faire un petit live avec Aubry. Si t'es prêt, mon corto? Tout va bien, merci à tous les trois. Chile, yes, reposez-vous bien, et à tout à l'heure, 21h. Aubry qui sera en live dans moins de 45 minutes. Maintenant, on t'écoute, Aubry, c'est parti.
Petite France, n'oublie pas d'où tu viens. Petite France, rappelle-toi le chemin. tu leur as dit j'ai besoin de bras. Ils sont venus d'Italie, ils s'appelaient pas Mazarin Lully, et les gars de sidérurgie, ouvriers belges, paysans saisonniers, ouvriers de Kabylie, polonais les poumons prisonniers, des mines du Nord charbonniers. Petite France, n'oublie pas d'où tu viens. Petite France, rappelle-toi le chemin. Tu leur as dit j'ai besoin de sang. Ils sont venus mi-décembre. Ils s'appelaient Lazare Ponticelli, volontaire apollinaire, venu défendre ta liberté chérie. Dans les usines comme au front, tous les tirailleurs sénégalais, du Burkina, du Tonkin, tombés pour toi à Verdun. Hey, petite France, n'oublie pas d'où tu viens. Petite France, rappelle-toi le chemin. Espagnol venu prendre le maquis, arménien de l'affiche rouge, et de nouveau par tes colonies, que ton drapeau bleu blanc bouge, que ton drapeau bleu blanc bouge, que ton drapeau bleu blanc bouge. En 44 sous le ciel de Provence, la Marseillaise peut chanter libérée par des soldats tunisiens, par des soldats marocains, par des soldats algériens. Petite France, n'oublie pas d'où tu viens. Petite France, rappelle-toi le chemin. Tu leur as dit il faut tout reconstruire, bâtiments, travaux publics. Tu as ouvert bien plus grand tes portes aux ex-colonies d'Afrique. Et si pour eux il y a eu le temps des baraques, tes gamins ont le rêve qui claque. S'appelait Copa, Platini, Zidane, Pogba, Mbappé, Kylian, dans une équipe arc-en-ciel où ton drapeau bleu blanc bouge. Petite France, n'oublie pas d'où tu viens. Petite France, rappelle-toi le chemin.
Eh oui, Aubry, merci, merci beaucoup. Petite France, tirée de l'album Une nuit ensoleillée, le temps que tu nous rejoignes en plateau juste en face. Ce que je te propose, c'est qu'on réécoute un petit jingle. Pourquoi ? On est où ? On est à Eux, c'est nous. Eux, c'est nous. La soirée emblématique organisée par l'association La Redingote revient.
Le mardi 26 juillet, à partir de 17h30, rendez-vous sur la place de Vébron.
Une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage en faveur des migrants. Et oui, eux, c'est nous.
Au programme, un plateau radio avec Radio Bartas.
Et des concerts au Brix.
Zar électrique.
Docteur Sax.
Eux, c'est nous, proposé par la Redingote.
C'est à Vébron le mardi 26 juillet.
En partenariat avec le Zebdo de l'été,
Réseau Éducation Sans Frontières
et Radio Bartas. Eh oui, eux, c'est nous. Il nous s'est assis juste en face de moi. Aubry, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu viens de jouer Petite France. Précisons une chose, c'est que déjà, tu es prof d'histoire. Ouais, dans la vie et justement participer à des événements comme ça, ça fait sens un peu au cours d'histoire que tu peux prodiguer un peu toute l'année.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a deux jambes pour se tenir debout. Je pense que c'est important d'avoir les deux. Donc dans mon métier, je parle de manière très très concrète et avec le plus de vérité possible de faits historiques. Et puis j'ai besoin aussi de l'autre jambe qui est l'imagination, la créativité artistique et pourquoi pas aller chercher parfois un peu dans le cours d'histoire pour écrire des chansons et inversement surtout inversement.
Ça a dû te faire mal un peu les personnes qui ont, comment on dit, falsifié l'histoire ces derniers mois.
Ah ouais, carrément.
On va pas se tirer leur nom, on va pas salir notre micro non plus. Mais...
Ah non, mais c'est vertigineux. Je cherchais un adjectif, mais celui-là, je sais pas si c'est suffisant. Non, c'est de la folie suprême, quoi. C'est d'arriver à dire que si on prend un exemple comme Laval qui est issu de la gauche et qui est passé après à Vichy, ça sous-entendrait que toute la gauche soit vichiste et qu'en fait l'extrême droite n'était pas du tout vichiste et que l'extrême droite était résistante. Donc si vous avez un tout petit minimum de culture historique, on écoute ça et on dit mais comment on peut créer des discours pareils, quoi. C'est... Alors, parce qu'il y a une exception qui existe. Pierre Laval, et le gars qui se présente aux élections et qui arrive quand même à avoir, dans les sondages, un bon niveau à mi-parcours. À la fin, il a baissé, heureusement, mais d'arriver à diffuser ça et puis à ce que ça entre quand même dans les consciences, dans la société. Le plus dangereux, finalement, c'est pas Zemmour. Pour moi, c'est les idées qu'il a distillées. Ouais.
Comment les enfants l'ont pris, justement, toute cette part historique? Est-ce que tu en as parlé avec eux? Comment ça se passait? Parce que les générations qui débarquent, en fait, ont eu dans les oreilles, nous, des discours qu'on n'a pas eus. Comment on travaille? Comment on fait pour que les mentalités changent?
Moi, je les ai trouvés plutôt super avisés et super au clair sur les idées, sauf une petite poignée qui n'osait pas trop s'exprimer. Quand ils s'exprimaient, j'ai vu que penchaient un peu dans ce sens-là, quoi. Mais globalement, ce qui leur manquait, c'est une offre politique qui corresponde à leurs idées. C'est-à-dire que voilà, 12 candidats, rien qui correspond à ce qu'ils vivent. Aux enjeux climatiques, aux enjeux migratoires, tout. Enfin, on dit parfois que la France est un peuple de gauche gouverné par la droite, mais c'est pendant la guerre froide, c'est clairement, hein, puisque on était de ce côté-là du mur de Berlin, enfin du rideau de fer. Mais ça reste le cas, ouais.
Quels sont alors ton écriture là sur le morceau qu'on a entendu, ça donne vraiment envie d'entendre la suite du concert. Qui t'a influencé comme ça, qui t'a inspiré?
Moi j'écoutais plutôt des musiques que mes parents écoutaient plutôt que celles de ma génération, du coup je vais dire mon âge au passage. Non mais quand j'étais ado c'était Goldman, Renaud et Cabrel et compagnie, et moi j'écoutais plutôt Brel, Brassens, Ferré, voilà, des choses un peu plus anciennes, quoi. Donc je fais de la musique un peu de grands-parents, quoi. Avec ma guitare, sans rythmique autre que ce que je fais. Alors parfois je suis accompagné aussi, on avait monté un projet chanson jazz trio avec un pianiste et un contrebassiste juste avant le Covid. Puis là je continue avec le contrebassiste, donc on a ce système en duo actuellement. Mais j'essaie d'aller chercher des influences un peu partout. Aujourd'hui je dirais même plus ailleurs que dans la chanson, quoi. Un film va m'inspirer, je sais pas, une pièce de théâtre, un bouquin, voilà. Sans doute plus que les chanteurs. Ou alors des chanteurs pas trop connus, quoi. J'aime bien écouter des choses.
Allez écouter Aubry, d'ailleurs.
Ouais.
Alors, justement, est-ce que tout à l'heure j'ai posé la question aux copains de Zar, les réponses ont été diverses. La réponse peut être toute celle que tu veux. Est-ce que les artistes doivent être systématiquement engagés?
Alors, par rapport à plus particulièrement moi ce que je fais de la chanson, il y a une connotation quand on dit chanteur engagé, on imagine toujours tout de suite un gars avec une guitare seul, barbu. Bon, c'est mon cas, j'ai une guitare, je suis barbu. et que ça va pas forcément swinguer ou que ça va pas. Il y a peut-être une image un peu pesante autour de ça. Pour moi, l'artiste, il doit être partout où il est nécessaire qu'il soit, donc s'engager quand c'est nécessaire, être aussi dans le divertissement aussi. Enfin, c'est pas donc si on me colle une étiquette de chanteur engagé, là pour Petite France, c'est clairement ce qu'on m'a dit dans une autre interview. On m'a dit bon, ça aujourd'hui plus personne n'ose chanter des trucs comme ça, bravo. Moi ça me fait très plaisir, mais c'est vrai qu'à la fois je cherche pas cette étiquette là, quoi.
Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de participer à un événement comme C'est Nous, par rapport à toi, ton engagement personnel et tes idées?
Alors moi ça me fait un immense plaisir, hein, que la redingote m'ait proposé. Et puis là il y a une autre chanson que je vais chanter tout à l'heure qui s'appelle La table du monde. et qui correspond à un des engagements que j'ai de manière épisodique. C'est de, si on compare ça, ça ressemble un peu au Resto du Cœur, quoi. C'est proposer des repas à des personnes qui sont dans le besoin pour un euro symbolique, s'ils peuvent. Donc il y a beaucoup de mineurs non accompagnés sur la ville où j'habite, à Tours. Et donc la table de Jeanne-Marie, où elle propose ses repas, et j'ai rencontré là-bas plusieurs jeunes avec qui j'ai discuté, qui peuvent inspirer aussi des chansons. Ils avaient besoin d'une chanson pour leur local, quoi, pour pouvoir le payer. Donc j'ai écrit cette chanson, et puis ça faisait un petit peu de com, quoi.
Quel conseil tu donnes d'ailleurs aux gamins qui veulent se mettre à la musique et commencer à écrire des chansons, des poèmes, des bouquins, des romans, pourquoi pas?
D'être vrai, d'être dans la vérité, enfin dans sa vérité du moment, parce qu'on, c'est pas grave, après on évolue et puis on peut écrire autrement et renier même ce qu'on a écrit, mais bon, ça correspond à ce qu'on est à un moment présent. Mais je pense que si on essaie de tricher, se donner un genre, ça peut être rigolo, quoi, comme on enfime un costume, on se déguise, et il y a ça aussi dans l'art, enfin quand on monte sur scène, on se transcende, on est une autre personne, quoi. Mais on essaie d'être soi en mieux, quoi. Bon. Mais en tout cas, ouais, d'avoir ça comme fil rouge, comme fil directeur, ouais, d'être vrai, d'être soi-même.
Tu as sorti deux albums que j'ai ici sous le coude, d'ailleurs. Le premier, alors tu vas m'aider à le dire parce que je n'arrive pas à le dire.
Il y a le choix des chaises.
Oui.
Et les H de choix et de chaise sont des chaises.
Ah, c'est ça.
Et ce qui rend illisible le titre. Sauf sur la tranche.
Sur la tranche. Le choix des chaises. et là, tu viens de sortir dernièrement Une nuit ensoleillée. C'est de l'auto-édition.
Ouais, c'est de l'auto-production. 500 exemplaires, ouais. Donc c'est, voilà, ça permet d'avoir aussi un objet concret et puis quelque chose. Bon, c'est vrai que les CD aujourd'hui, c'est un petit peu moins dans la tendance du moment, mais je trouve ça intéressant de garder un objet, quoi. Ouais.
Tu te produis juste après ce plateau. Merci beaucoup, Aubry, d'avoir
pris
ce temps.
Merci, Ben. Merci à tous les deux.
Ouais, c'était un vrai plaisir. Une nuit ensoleillée, ton album. Est-ce que tu le vends ce soir?
Ouais, tout à fait, ouais.
Eh ben voilà, une nuit ensoleillée. Venez, Aubry Lomer, et voilà, merci encore d'avoir pris ce temps et à très vite.
Merci.
On se passe un petit jingle et on retrouve dans un instant tout de suite l'équipe d'RESF. C'est parti. Eux, c'est nous. La soirée emblématique organisée par l'association La Redingote revient.
Le mardi 26 juillet, à partir de 17h30, rendez-vous sur la place de Vébron.
Une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage en faveur des migrants. Et oui, eux, c'est nous.
Au programme, un plateau radio avec Radio Bartas.
Et des concerts. Aubry.
Zar électrique.
Docteur Saxe.
Eux, c'est nous, proposé par la Redingote.
C'est à Vébron le mardi 26 juillet.
En partenariat avec les Hebdo de l'été,
Réseau Éducation Sans Frontières
et Radio Bartas. Et oui, toujours en direct de la soirée. Eux, chez nous, ça se passe aujourd'hui à Vébron. On est en direct sur Radio Bartas. Nous ont rejoint en plateau Patricia, bonjour.
Bonjour.
Jacques, bonjour.
Bonjour.
Et Pascal, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Hein. Il y a énormément de choses à dire. Le réseau Éducation Sans Frontières. On va commencer par toi, Patricia. Précisons que ce n'est pas une association. C'est quoi RESF pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Alors, le réseau Éducation Sans Frontières, c'est comme son nom l'indique, un réseau. C'est-à-dire des gens qui ont choisi de se rassembler pour aider les gens qui n'ont pas de papiers, qui souhaitent rester en France, à en obtenir.
C'est assez simple comme ça, mais on suppose que sur le terrain, ça doit être une horreur. Comment ça se passe sur le terrain, justement?
Eh bien, ça dépend des périodes, on va dire. On vient de traverser 5 ans très difficiles. Ça dépend bien sûr de la politique du gouvernement, mais aussi des préfets qui peuvent être en place. Là, on a quand même eu pendant 4 ans 2 préfètes avec qui ça a été très difficile, avec qui on a eu très peu de contact, le réseau. Donc il y a eu quand même des expulsions, des essais aussi d'expulsion, des baptêmes de l'air, on va dire.
Des baptêmes de l'air ?
Oui, je dis ça, c'est un peu ironique. Mais... Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, là, bon, il y a deux personnes, un jeune Pakistanais donc, qui avait une obligation de quitter le territoire français, que la préfète ne voulait pas régulariser. Il a été arrêté, il a été emmené en centre de rétention. Et de là, il a été mis dans un avion très tôt le matin, direction Paris, puis Paris-Istanbul, où après, il y a une correspondance pour Islamabad au Pakistan. Et arrivé à Istanbul, il était accompagné par deux policiers tout ce temps-là. Hein, les policiers lui ont dit « on revient à Paris ».
C'est dingue parce que les parcours sont complètement fous. Quand on les écoute vraiment parler et qu'ils nous racontent leurs histoires, c'est un parcours de dingue. Et comment ne pas être touché par toutes ces histoires-là ? Qu'est-ce que t'en penses, Patricia ?
C'est sûr que nous, on est touchés, que c'est pas pour nous, c'est pas des dossiers. Après, bah, selon les personnes qu'on a en face, on peut arriver à toucher des gens. Hein. Moi, j'ai souvenir de préfets ou de préfètes qui peuvent être sensibles à une histoire. Après, il y en a d'autres, je ne sais pas comment ils se justifient eux-mêmes. Peut-être qu'ils pensent faire bien pour la collectivité. Peut-être qu'il y a plusieurs raisons, on va dire. Mais qui vont rester très inflexibles.
On va continuer à parler de tout ça. D'abord, on va dire un mot sur l'Iridona, puisque, en fait, il faut bien comprendre que Réseau Éducation Sans Frontières n'est pas une association, donc il y a besoin d'autres collectifs qui viennent. Et c'est toi qui vas nous en parler, Jacques.
Voilà. Donc, Réseau Éducation Sans Frontières n'existe pas légalement, puisque, donc, on vient de le dire, c'est juste un rassemblement de personnes qui n'a pas d'existence juridique. Donc, on a ressenti assez vite le besoin de créer une association qui est devenue de toute façon indispensable pour n'importe quelle démarche. Si on veut avoir une assurance, si on veut demander une salle, bon, il faut avoir une existence. Voilà. Donc on a créé cette association il y a une dizaine d'années. Elle fait tout le travail de paperasserie, en gros, pas l'aspect paperasserie pour les papiers des étrangers, dont on s'occupe d'autres gens, mais bon, l'aspect principalement sur l'argent, donc les demandes de subventions, il y a un conseil d'administration qui se réunit, donc qui nous permet aussi d'avoir des réunions pour parler plus des problèmes de fonds. Voilà.
L'Iridona. Et en tout cas, ce qu'on se disait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, Pascal, c'est que on peut toujours avoir un point d'accroche si jamais on ne sait pas comment faire et ou à qui s'adresser pour aider. Ce genre d'association peut y contribuer.
Voilà, donc Patricia a présenté RSF au niveau national, ensuite départemental l'Iridona. Effectivement, si on sait pas, si on a envie de s'investir et qu'on ne sait pas, on peut aller sur le site de RSF et on trouve des coordonnées qui permettent effectivement de contacter deux personnes de l'Iridona qui sont aussi à l'Iridona et qui...
Ah, t'es pas...
Marianne est...
En fait, la RESF au niveau national, c'est juste un regroupement de tous les RESF départementaux. Et sur le site de RESF, il y a RESF Lozère. On clique sur le département Lozère.
On trouve les contacts lozériens, pardon.
Non, mais c'est comme ça, au moins, on est tout à fait clair. Alors justement, faisons un point, puisqu'il y a eu des belles mobilisations l'année dernière. C'est dommage de devoir se mobiliser pour ça, hein, mais... En tout cas, on a vu que le peuple sud-lausanne ici était quand même bien investi dans ce truc. Quelle est la situation ici à Florac, notamment par rapport à des situations concrètes ?
Alors, sur Florac, depuis quelques mois, il y a un groupe qui s'est constitué. Je dirais un petit peu la prise de conscience et la visibilité des gens qui avaient envie de s'engager, c'est venu en début 2021, c'est ça, hein, je pense, avec les grosses manifestations sur Florac pour Alcaba et Drilon et Riola et leur petite fille. Donc on a senti qu'il y avait une grosse mobilisation, il y avait énormément de gens qui sont descendus dans les rues, des élus aussi beaucoup.
Et ça c'est quand même cool que des élus aient pris cette responsabilité-là et de se dire on y va, quoi.
Et donc, effectivement, ça a rendu visible et ça a permis à des gens de Florac de se dire que ben, nous aussi, habitants de Florac, on croise Aziz, on croise Eriola, on croise Leïla et ils font partie de notre vie, on fait partie de la leur et qu'on a envie de se mobiliser pour qu'ils restent là, qu'ils vivent là, comme nous, on a eu envie de venir vivre ici et qu'ils travaillent ici parce qu'il y en a besoin de gens qui travaillent ici. On est toujours en manque de personnes. Et donc depuis quelques temps, en fait, il y a un groupe qui est un petit peu plus fixe sur Florac, qui se réunit et qui mène des actions de mobilisation. Donc il y a une journée dernièrement qui prenait appui sur la journée pour les exilés. Donc il y a une mobilisation sur Mende. Un petit peu plus avant en mars, il y a eu une journée festive sur Florac avec des films, des ateliers de cuisine, un repas, de la musique, etc.
Ça, c'était à L'Encrier.
Voilà, à L'Encrier, en mars. Et puis, voilà, donc et aujourd'hui, on est là. Nous, c'est la première fois sur le comité de Florac où on vient sur l'action de la... c'est nous, de la Redingote. Et on est... Donc, là, aujourd'hui, il y a deux cuistots. Il y a Eriola, qui vient d'Albanie, qui fait sa salade albanaise, et Aziz, qui vient d'Algérie, qui est kabyle, et qui nous prépare une chouchouka, et qui a aussi envie de rester là, de vivre là, de travailler là.
Voilà. Aziz, disons-en un mot, sa situation est loin d'être réglée, ou alors est-ce que ça avance tout doucement? Où est-ce qu'on en est pour l'instant?
Voilà, je pense que Patricia...
Ben là, on a rencontré le préfet, donc on a été reçu il n'y a pas longtemps. Donc le dossier d'Aziz va être réétudié, puisque bon, il a quand même un contrat de travail dans la restauration. Et que la restauration, on sait que les gens ont du mal à trouver. Hein. Bon, il y a des raisons, effectivement, mais voilà. Donc nous, on a insisté, parce que c'est vrai que ce soit sur Florac ou sur Mende, d'ailleurs, hein, sur la Lozère, beaucoup d'étrangers qui sont sans papier ont des contrats dans des secteurs en tension, c'est-à-dire le bâtiment. C'est le cas sur Florac pour plusieurs. Il y en a aussi de Mende, voire de Mende qui ont des contrats sur Florac, justement. L'hôtellerie-restauration et puis tout ce qui est service à la personne et à la collectivité. Donc ça, on a eu cette discussion aussi avec le nouveau préfet, donc, qui nous a dit que, bon, a priori, il n'est pas pour expulser à tout prix. Hein.
Donc ça veut dire que, quelque part, on peut avoir un petit souffle de positivisme.
Oui.
Dans le marasme qu'on vient de vivre
pendant 4 ans, ça a été difficile. Là, on a quelqu'un qui, à mon sens, et on était tous d'accord, ceux qui l'ont rencontré, hein, c'est quelqu'un quand même qui est honnête, avec qui on peut discuter. On ne sera pas toujours d'accord, c'est certain. Hein, voilà. Mais il est prévu qu'on se voit 2 fois par an. Et là, déjà, depuis qu'on l'a rencontré, donc c'était début juillet, il y a déjà des situations qui sont réglées en 3 semaines. Il y en a au moins 6, a priori, qui sont réglées, on va dire.
Jacques, peut-être, est-ce qu'on peut expliquer la distorsion qu'il y a entre le département qui fait des campagnes pour venir s'installer en Lozère et justement un système plus répressif où finalement les migrants n'ont pas le droit de s'installer alors qu'ils représentent une vraie force et une vraie richesse?
Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Enfin, on ne trouve aucune logique humaine, bien sûr, mais surtout aucune logique économique. Il y a par exemple tous les jeunes qui sont formés, qui sont arrivés mineurs, qui ont été formés par le département. Donc on dépense de l'argent pour les former, c'est super. Et à la fin, on les expulse. Donc il y a quand même une chose qui ne fonctionne pas. Bon, après, il y a ce problème réellement qu'il y a une vraie demande, enfin, en Lozère, mais comme d'autres départements, dans certains métiers. Donc, on a des gens qui ne demandent qu'à travailler, et puis ce sont des gens très, très bosseurs. Enfin, je pense, quand on a vécu des trucs épouvantables, qu'on a passé pendant 2 ans de traversées épouvantables, de tortures, qu'on a une dette morale très, très forte par rapport à sa famille, par rapport aux gens que vous aidez à venir, les gens ils vont pas se mettre à glander et attendre si pareil, éventuellement ils se mettraient à, ils auraient un petit peu de travail à faire. Non, tous les exemples qu'on connaît sont des gens bosseurs à fond qui acceptent des choses que pas beaucoup de Français des fois acceptent de faire.
Ouais. J'ai une question qui peut peut-être simple ou quoi, mais j'ai un truc que je comprends pas, c'est comment on explique qu'il y ait une espèce de deux poids deux mesures, c'est-à-dire une grosse solidarité avec le peuple ukrainien qu'on a vu débarquer et moi avec des Syriens, des Albanais. Alors je sais pas, c'est peut-être une question qui fâche, mais est-ce que pourquoi ce deux poids deux mesures?
Bon, je pense que la réponse, tout le monde la connaît quand même. Hein. Ah. C'est clair que les Ukrainiens, ben voilà ce qui a été dit dans certaines radios, télévisions, les Ukrainiens sont européens, ils ne sont pas musulmans. Hein. Voilà. Voilà, quand on entend, je ne sais plus sur quelle télé, comprenez, c'est des gens, ils sont comme nous. Ils traversent la frontière, ils peuvent avoir la même voiture que nous. Voilà, c'est des gens auxquels certains peuvent plus facilement s'identifier.
Sans minimiser la solidarité qu'on doit avoir pour eux. Hein. Je veux dire,
c'est, ah non, on mais il ne s'agit train, pas de minimiser. C'est, ce qu'il faudrait, c'est accueillir tout le monde comme on accueille les Ukrainiens.
Surtout
c'est évident.
Surtout que quand on regarde les chiffres, au final, des pays comme l'Allemagne accueillent...
Pas beaucoup.
Non mais je veux dire justement, les chiffres sont enfin on a la place pour vraiment accueillir énormément de monde. L'Allemagne fait beaucoup plus que nous et je te vois tiquer quand même.
Si si. Par rapport aux Ukrainiens, oui, il y en a plus.
Mais même aux Syriens, je pense qu'ils ont été quand même.
Il y a eu par rapport aux Syriens, mais c'est évident que ce qu'ils ont calculé aussi, même s'il peut y avoir une part d'humanité, il y a d'autres enjeux derrière. C'est des enjeux démographiques. Une population vieillissante en Europe et on a besoin d'eux pour bosser. Donc ils l'ont très vite calculé, les Allemands. La France, on est minable. Que ce soit pour accueillir des réfugiés qui soient syriens, ukrainiens, on est vraiment loin derrière beaucoup d'autres pays européens ou non européens qui accueillent des réfugiés. Bon là, c'est la Pologne qui en accueille le plus parce que c'est frontalier. De la même façon que le Liban a accueilli proportionnellement à sa population le plus de Syriens. C'est aussi la Moldavie là qui accueille beaucoup par rapport à son nombre d'habitants. C'est un tout petit pays. La France, on n'est même pas dans les classements. On n'est nulle part. Le seul truc où on est champion, c'est les obligations de quitter le territoire français. Et là, on est premier en Europe.
Qu'est-ce que... Parce qu'il y a une part de réponse qui est politique, ça c'est obligatoire forcément, mais qu'est-ce que chaque citoyen pourrait faire à sa hauteur pour faire aussi avancer les choses?
Considérer les... Enfin, pas faire de différence, en fait. Je veux dire, se considérer les uns et les autres au même niveau. Rendre aussi, je pense, c'est important pour les personnes qui sont sans papier, qui vivent sur notre territoire ou ailleurs, peu importe, leur donner une visibilité, leur permettre d'être visible dans une ville, dans un village, leur permettre de sortir de l'ombre et de vivre une vie, parce qu'il y a aussi souvent de la crainte. Et ben, de toute façon, déjà, quand on est français, qu'on n'a pas de travail ou qu'on n'est pas tout à fait comme la norme, ben, on s'auto-isole, ben rendre visible, leur permettre d'être là, les accompagner, et puis voilà. Enfin, je pense que ça engage pas à grand chose. C'est à la portée de tout le monde, quoi.
Et venir aussi ce soir à Eux c'est nous, puisque vous faites d'une pierre deux coups. Non seulement vous voyez des concerts, mais en plus vous aidez vraiment des gens. Merci beaucoup à tous les trois pour ce que vous faites. Patricia, Jacques, Pascal, merci, à très vite. On va faire une petite pause musicale histoire de souffler un tout petit peu. Merci beaucoup. On écoute, il joue tout à l'heure à partir de 21h15 ici sur la place de Hébron. Vous êtes bien sur Radio Bartas en direct. Le morceau s'appelle Entier, il s'appelle Art électrique. Nous, la soirée emblématique organisée par l'association La Redingote revient.
Le mardi 26 juillet, à partir de 17h30, rendez-vous sur la place de Vébron.
Une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage en faveur des migrants. Et oui, eux, c'est nous.
Au programme, un plateau radio avec Radio Bartas.
Et des concerts au Brix.
Zar électrique.
Docteur Saxe.
Eux, c'est nous, proposé par la Redingote.
C'est à Vébron le mardi 26 juillet.
En partenariat avec les hebdos de l'été,
Réseau Éducation Sans Frontières
et Radio Bartas. Eux, c'est nous, en direct de Vébron, sur la place où on y est bien, il fait bon. Alors, je vais remercier du fond du cœur les enfants du foyer rural de Florac qui ont fait ce jingle avec moi. Merci beaucoup du fond du cœur. Et je vais aussi citer le collectif MOM que je n'ai pas cité, mais c'est les hebdos de l'été. Les hebdos de l'été, qui ne le sait pas, c'est organisé par le collectif MOM. Nous en rejoignons au plateau. Christelle, bonjour.
Salut.
Et Cléo, bonjour.
Salut Ben.
Oh Cléo, t'en as fait de la radio pendant 6 mois, ça va le faire.
Ah, j'ai encore peur, surtout le direct, ça m'impressionne beaucoup.
De l'association La Redingote, qui a été créée avant que vous y rentiez, mais est-ce que vous pourriez nous faire un tout petit historique de cette association ?
Regarde-moi.
Vas-y Christelle, si tu veux.
Alors, l'historique.
1952.
Non, nous sommes arrivés en 2017, donc à Vébron, et l'association existait déjà. Ça faisait déjà peut-être 1 an et demi, ouais, bon, bref, 2 ans qu'elle existait. En fait, nous, on a repris un petit peu
le flambeau.
Merci. Le flambeau.
C'est pour ça que c'est cool que vous soyez deux en plateau.
Ouais, on est complémentaires, hyper complémentaires avec Christelle.
Donc, on a repris le flambeau parce que quand on arrivait au village, on avait envie de faire des trucs. Et rapidement, en ayant notre ami Thomas qui faisait partie de Utopia 56 à Calais, on s'est vite dit que, vu qu'on avait envie de proposer des concerts et tout ça, valait mieux proposer des concerts en portant une cause. Et on s'est dit, nous on fait rien au fin fond de notre Lozère pour accueillir les exilés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben on peut faire des concerts et puis récolter des sous et puis envoyer des sous aux assos qui s'occupent à Calais, voilà. Et donc ça a été notre première initiative qui s'est déroulée à Saint-Laurent-de-Trèves en 2017.
Ouais, c'est ça.
Avec, d'ailleurs, il y avait Zulus Back Band à l'époque, hein, c'était ça. Hein.
Il y avait Zulus Back Band et Bang Band. et Garrick. Ouais. Ouais.
Et ça a été quand même un succès, hein, parce qu'à chaque fois, il faut dire que c'est nous, ça cartonne, ça ramène du monde, etc. Et vous choisissez depuis ce moment-là une association que vous décidez de parrainer. Comment vous la choisissez? Comment ça se passe entre vous?
Voilà, c'est plutôt Thomas en fait qui est sur le coup et du coup qui nous aiguille, qui nous dit voilà, il y a vraiment besoin de sous là à Utopia ou à Refugee Community Kitchen aussi. On avait financé cet asso-là.
Ah, c'est clair, ouais.
Après, on avait décidé de revenir un petit peu sur le territoire. On avait du coup financé, avec les bénéfices de la 2e édition, il me semble, l'association d'accueil aux migrants de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Et en 2018.
Encore plus localisé en finançant du coup la 3e année, l'IRIDONA et donc RESF quelque part. Voilà, après l'année dernière, on n'a pas pu faire ECNU, Covid, tout ça, voilà. Donc on a quand même réussi à participer à hauteur de 1000 euros grâce à la kermesse qu'on avait organisée cette année-là avant tous les protocoles un petit peu trop contraignant par rapport à ce qu'on avait envie de faire. Et voilà, et cette année, de nouveau, on va sûrement, alors c'est pas encore tout à fait décidé dans l'asso, mais financer de nouveau l'IRIDONA, et s'il y a vraiment un gros bénéfice, peut-être Utopia aussi. On a demandé à Thomas, il nous a dit, de toute façon, il y a besoin de thunes partout. Voilà.
Au moins, c'est clair, j'ai pas de jaloux, faut enfiler, tu m'étonnes. Justement, est-ce que organiser ce genre d'événement comme Eux, c'est nous, ça permet de faire la fête, ça permet de découvrir des groupes, hein, excellent, d'ailleurs, on vient d'écouter écouter Zara Electric, ça va être juste génial. Est-ce que la fête, comment je dirais, participe à cette mobilisation, en fait, même si on a vu que les grosses manifs à Florac ou à Mende, ça a été absolument génial, mais est-ce que mettre de la culture en plus, ça favorise le fait de gagner du pognon, puisque finalement, la finalité, elle est là.
Eh ben, je dirais qu'on joint l'utile à l'agréable.
Réponse laconique, ça me va très bien. Parlons des partenaires, parce qu'il y a quand même... Alors vous bougez au niveau de la redingote, mais au niveau des partenaires, des gens qui vous aident, ils sont extrêmement généreux, ils ont été super cette année. Qui sont-ils ?
Radio Barthès.
Merci. Et on sera toujours là, t'inquiète.
Merci Radio Barthès. Ouais. Non, il y a plein de gens ouais, qui participent à cet événement et on ne les voit pas là ce soir. Il y a Biojour notamment qui nous a filé l'intégralité de la nourriture et pour les bénévoles et pour les sandwichs. Enfin, voilà, ils ont été hyper, hyper généreux.
Gratuitement.
Ouais, voilà. C'est leur manière aussi de participer à cette cause-là qui les touche. Et les artistes aussi, qui viennent vraiment pour pas grand-chose, voire gratuitement, aux différents événements, enfin, aux différents EC Nous qu'on a organisés. Donc, merci à Aubry, à Marius et à Zara Electric. Il y a Valérie Donna, qui vient participer, donner la main, faire les entrées là. Donc on aura de la salade.
Ah oui, les entrées, on s'est marré hier en préparant ce plateau. Les entrées mangées.
Voilà, pas la billetterie. Et donc Edon, Aziz et Riola qui sont là pour préparer à manger aussi. Donc merci à eux. Et puis la mairie qui nous a soutenus bien cette année. Enfin, on était vraiment contents de leur participation. Donc merci à eux et à tous les bénévoles qui sont là et qui sont fidèles. Et il y en a des nouveaux aussi et ça c'est chouette.
Et un joli partenariat aussi cette année, c'est un peu exceptionnel, c'est avec les Hebdo de l'été qui ont débarqué, Collectif Môme. Comment ça s'est passé ? C'est eux qui vous ont contacté ? C'est vous ? Comment ça s'est fait ?
Alors là,
eh ben en fait,
coup de bol.
Fait que je fais un petit peu partie aussi de l'association des mômes, en fait.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Donc du coup, on en a parlé lors de la dernière assemblée générale et voilà. On s'est dit que pourquoi pas, on pourrait lier les deux.
Voilà. On fait la force. Parce que apparemment, on fait des dictons, non, comment on dit ?
Bref, les maximes.
C'est des slogans, mais l'union fait la force, c'est un jingle, enfin c'est belge, c'est le... Comme nous, c'est liberté, égalité, fraternité, l'union fait la force, c'est en Belgique. Enfin bon, bref. Ce serait cool un jour qu'on puisse imaginer que cette soirée se fasse sans la finalité qu'on a justement de donner à des associations. Ce serait votre rêve ?
On en trouverait une autre, non ?
Ouais. De finalité. À mon avis, c'est mal barré. Hein.
Ça nous permettrait d'inviter des groupes en les payant peut-être aussi à la juste hauteur de leur travail. Et ce serait super, ce serait une cause aussi en soi, en fait, de pouvoir payer les artistes correctement. Enfin, moi, ce serait...
C'est votre avis personnel que je demande. Je pose la question à tous les copains, copines qui sont passés sur ce plateau, les artistes en tout cas. Est-ce que l'art, la culture doit s'engager pour toutes les causes, à votre avis ?
Toutes les causes.
Il y en a pas mal.
Pour moi, c'est une manière de s'engager. Ça peut être une manière, mais après, on peut très bien ne pas s'engager. Mais en tout cas, ça peut être un levier pour défendre des causes, parce que justement, quand on commence à être connu, quand on s'adresse à un public important, et ben là, on peut faire passer des messages. Et quel que soit, bah oui, après ça dépend des messages, mais en tout cas pour moi c'est lié, ouais.
Ouais, et puis la culture, les spectacles, la musique, enfin tout ça c'est pour découvrir l'autre en fait. Donc en soi c'est presque déjà un combat à mes yeux.
Pratiquement, comment ça se passe si je veux manger ce soir, c'est combien, est-ce que je dois réserver, est-ce qu'il reste des repas?
Alors, il n'y a pas de réservation. On a espéré qu'il y ait assez de sandwich et d'entrée pour tout le monde. Il y a aussi les crêpes de l'APE. Et d'ailleurs, merci à l'APE aussi de participer pour les desserts, le goûter, tout ça. Donc, l'association des parents d'élèves de Vébron, qui est juste là en train de nous faire des crêpes avec des bons produits. Et le prix, je ne le connais pas. Je suis désolée. Bah. Ouais.
Auditeur, auditrice, la meilleure façon de faire, c'est de venir.
Exactement.
Vous l'aurez sur la place. Merci beaucoup, Cléo. Merci beaucoup, Christelle. C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Votre sourire et votre stress, justement, me fait mourir de rire. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites.
Merci, Ben. Merci.
Dans un tout petit instant, cette émission touche tout doucement à sa fin. On va recevoir Marius qui joue ce soir aussi. Et on le remercie et vraiment merci aux artistes de jouer le jeu et de venir nous voir en plateau juste avant. Dr Sax, tiens, un petit morceau qu'il a écrit tout seul, qui joue tout seul, un truc de fou. Eh ben, Dr Sax, il nous interprète Ramène ta meute. À tout de suite. direct de Vébron, toujours sur la place de Vébron pour Eux c'est nous. Vous êtes bien sur Radio Bartas. Si la musique que vous venez d'entendre ne vous donne pas envie de venir ici à participer à cet événement, je ne comprends pas, je rends mon tablier, je ne sais pas. Nous a rejoint d'ailleurs pour en parler, puisqu'on vient d'écouter Dr Sykes, Ramène ta meute. Marius, bonjour.
Salut.
Merci de prendre ce temps-là juste avant de monter sur scène. Là, donc tu clôtureras la soirée. Comment on se sent comme ça à quelques minutes de prendre le live ?
Eh bien, super bien. La vie est belle. J'ai hâte de finir l'interview pour aller me baigner
Alors on va faire
dans
vite.
Le Tarnon.
On va faire vite, t'inquiète pas. S'il reste de l'eau, hein, parce qu'elle est un peu en perdition. Marius, ton parcours, c'est quoi pour en arriver là ? Alors, il faut préciser aussi une chose, c'est que là, les morceaux qu'on vient d'écouter, Ramène ta meute, tu fais absolument tout. Le sax, les machines, la compo, la trompette, tu fais tout.
Oui, deux sax. Trompette, trombone, basse... Ouais, pas mal.
C'est quoi ton parcours pour en arriver là et à jouer autant d'instruments ?
Je sais pas si c'est la passion ou la gourmandise. Ça doit être un des deux ou les deux, un mélange des deux.
Qu'est-ce qui t'influence et qu'est-ce qui te donne envie d'écrire un morceau ?
Celui qu'on vient d'écouter, en fait, j'allais me coucher après une journée de boulot. Et puis j'ai eu un vieux réflexe qu'on a, je suis pas le seul... À me dire, bah tiens, au lieu de me connecter à moi, je vais me connecter à YouTube. Donc j'avoue, mais bon, je suis pas le seul. Et du coup, je mets YouTube et je tombe sur une vidéo de meute.
Ouais, qui sont passés à Mende, là, il y a un petit mois. Ouais.
Voilà. Et là, j'ai dit, wow, j'ai écouté une minute trente, et j'ai dit stop. Je vais faire un truc dans la même énergie, mais j'écoute pas plus pour faire ce qui me vient, moi. Et du coup, j'ai pris mon sax baryton, parce que là, il y a sax bas, sax baryton dans Meute. Et j'ai pris la note la plus grave de mon sax, qui est si bémol, en mi bémol, et je suis parti de là. Voilà, en 2-3 heures, j'avais jeté les bases du morceau.
Et est-ce que tu fonctionnes de la même manière pour toutes les compos, ou alors des fois, c'est juste une idée dont tu rêves la nuit ? Une petite mélodie qui débarque.
Je rêve pas trop de musique la nuit, malheureusement. Ça m'arrive des fois, mais pas tant. Et il y a un peu de tout. Hein. Des fois, ça se fait tout seul. Des fois, j'ai une idée en tête. Des fois, je me dis, bon, je vais jouer dans une guinguette, un peu resto. Les gens vont manger, alors je fais un morceau un peu cool. Ça peut prendre un peu tous les chemins.
Il y a une part d'improvisation dans ce que tu fais ?
Oui, presque trop.
C'est-à-dire que ça t'emmène trop loin, en fait ?
Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai grandi avec la musique psychédélique, jazz. Donc, un de mes albums favoris de Frank Zappa, c'est Shut Up and Play Air Guitar, qui est un triple vinyle, double CD, sorti le jour de mon anniversaire, le 11 mai 81. Quand j'ai appris ça, j'étais trop fan. Je dis, ouais, je suis né le jour de Shut Up. Bon, bref, tout ça pour dire que cet album, c'est 3 vinyles de solo de guitare. C'est que ça pendant 3 trucs et j'adore. Pour moi, ça passe crème. et puis pour des gens, c'est juste inécoutable. C'est waouh, qu'est-ce que c'est ce truc. Donc, et puis c'est aussi, je pense qu'énergétiquement, j'ai un côté un peu foufou avec des bonnes qualités et un côté aussi avec un manque d'ancrage. Ce qui fait que je peux avoir tendance à faire beaucoup de notes et de faire une petite mélodie posée. C'est aussi dans mon chemin, c'est pas ma spécialité, mais c'est bon d'être ancré, et c'est bon pour les oreilles des auditeurs qui sont pas tous biberonnés à des solos de Coltrane de 12 minutes.
Parfois inaccessible aussi.
Inaccessible comment ?
Tu sais, ou des fois, bah, pareil que Zappa, tu sais, où tu as du mal à comprendre aussi ce qui se passe musicalement dans leur tête, je sais pas, c'est un avis.
Oui, en tout cas pour certaines personnes, c'est un grand mystère, oui, ce genre de musique.
Et justement, là, le morceau qu'on vient d'écouter est musical. Est-ce que tu chantes aussi sur scène, ou alors est-ce que tu mets pas du tout de texte et que tu restes très musical ?
Bonne question.
Surprise, venez.
Alors, en fait, plus je suis en forme, plus je chante. Voilà. Après, j'ai aussi très peu écrit. C'est pas dans mes habitudes d'écrire des paroles, tout ça. Et du coup, Du coup, des fois, je suis inspiré et je chante et puis ça marche super bien. Les gens me disent ouais, t'as une super voix de folie, c'est génial quand tu chantes. Et des fois, je suis pas trop dedans et je chante complètement faux et je crois pas à ce que je fais.
Mais c'est possible ça de chanter faux alors que t'es multi-instrumentiste
Oui, après, c'est vachement. Le chant, c'est très énergétique, c'est vachement en prise directe avec comment sont nos chakras. Ou nos fascias ou ce qu'on veut suivant la manière qu'on a de voir les choses, mais oui, je peux être carrément coincé à certains endroits et du coup j'ouvre pas assez, je crois pas à mon truc et énergétiquement je trouve pas le chemin. Si je suis connecté, tout se fait tout seul en fait, hein. De toute façon il suffit de lâcher prise. Il y a un endroit où c'est comme ça et les choses se font toutes seules. Mais des fois j'essaye, des fois j'attends un résultat, des fois je veux quelque chose et j'ai pas l'énergie de le faire et je me plante. Et... Après en live ça va, ça, c'est pas trop grave. Même si je chante faux, les gens ils sont contents.
Ouais, et puis en studio il y a l'autotune.
Oui, voilà, exactement. J'osais pas le dire, mais bon.
Si on parle d'une petite question technique, quelque chose qui m'a... Voilà, j'ai la chance d'être un peu trompettiste, en fait, et justement, ces deux styles de manière de faire au niveau des lèvres pour un saxophone et une trompette, si on veut faire une petite image, c'est-à-dire que la trompette, ça va être plus les lèvres en avant, le saxophone, plus les lèvres entre les dents, est-ce que ça a été facile pour toi de mélanger les deux, ou alors est-ce que ça a été vraiment un exercice et musculaire quelque chose de difficile?
Bonne question.
Désolé.
Non, je déconne. En fait, je joue pas vraiment de trompette, en fait.
Ah.
Voilà. C'est une gourmandise. Un jour, je me suis dit, j'essaierai bien une trompette. J'en ai acheté une. Et puis, la trompette, c'est un instrument super dur. Et en même temps, on peut faire des trucs de folie hyper facilement. C'est assez le paradoxe de la trompette. Et quand j'ai commencé la trompette, assez vite, je me suis dit non, mais je vais devenir en plus trompettiste. Et en fait, je me suis rendu compte, je le savais, hein, mais j'y ai cru, je me suis enflammé. Mais la trompette exige beaucoup de travail et puis une régularité. Et c'était trop pour moi. Donc si j'en ai vraiment besoin, je peux sortir la trompette. Et si je suis à la maison, je peux faire plusieurs prises. Et on dirait que je sais jouer de la trompette, mais en vrai, je sais pas en jouer, quoi.
Est-ce que t'écris tout? Est-ce que c'est sur partition ou alors est-ce que tu te dis finalement tu pars comme tu disais tout à l'heure avec ton sax barre et bim t'as la base et tu te dis tiens je vais juste rajouter la trompette qui fait un... Ouais, ou alors est-ce que vraiment c'est tout est calé et sur partition?
Bah, une fois que j'ai joué tout est calé mais il n'y a aucune partition, hein. Voilà, j'utilise au début de ma carrière, entre guillemets, j'ai joué dans un orchestre de variété, là j'avais des partitions. J'ai fait un peu de musique trad et là on avait des partitions aussi. Mais sinon j'en utilise jamais à peu près. Ouais.
Et la dernière question, justement, t'es là dans le cadre des hebdos de l'été. Ce soir, c'est la question, enfin, c'est la soirée, pardon, eux, c'est nous. Donc, une soirée engagée. La question que j'ai un peu posée à tous les copains, copines qui sont passés, quelle est ta part d'engagement, toi, par rapport, que ce soit les migrants, mais ça peut être aussi les SDF ou autres, hein.
Bonne question.
Et donc, ça commence à en faire. Je vais finir par me demander si c'est pas une ironique.
Je crois que c'est les effets positifs de l'âge. J'ai l'impression que maintenant, j'ai arrêté de croire que je pouvais sauver le monde ou en tout cas de me mettre la pression avec. Mais sinon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité et maintenant, j'ai compris que... Enfin, je crois... que déjà se sauver soi-même c'est la meilleure chose qu'on puisse faire et donc je suis vachement sur ce chemin là après moi ce que je fais principalement c'est tout simplement manger bio, avoir un compost, ce genre de truc, rendre à la nature ce que je mange pas ou ce genre de truc. Et puis oui, je pense que c'est surtout l'écologie intérieure, voilà, où je travaille le plus voilà ce qui me vient. Et voilà, développer l'amour quelque part, hein, sans vouloir paraître baba cool ou complètement perché. Mais plus ça va, plus j'y crois quand même. Et puis le positivisme, parce que le monde, je l'ai toujours lu, mais maintenant ça commence à devenir concret. Le monde, il est comme on le voit, quoi. Donc on peut se dire, souffrir vachement et se dire le monde, il est affreux et ça va pas. Et moi, plus ça va, plus j'ai des moments où je me dis en fait c'est cool, c'est super, et je vis des moments vraiment par moments, surtout en groupe, surtout avec les gens, de vraiment de paix intérieure, de confiance et de pur kiff. Et voilà, je pense que de toute façon, et notamment avant je voulais sauver le monde, et maintenant j'ai envie de kiffer, parce que peut-être que quoi qu'on fasse on n'y arrivera pas, et c'est peut-être pas grave du tout en plus, et du coup j'ai envie de, comme ils disent dans le tantra, d'être en mode extatique avec ce qui se passe dans le monde, et même quand ça va pas justement, en fait il y a du bon partout, bon voilà.
Et les petits riens font les grands tout. Merci beaucoup, Marius.
Merci à toi. Super équipe, super question. Je suis fan. Et je voulais dire un truc, c'est que le public de Lozère, j'ai vécu parmi mes meilleurs concerts en Lozère. Moi, je suis juste derrière le Montégoal, là, au Vigan. Et j'idéalise un peu le public de Lozère. Je vous adore. En tout cas, j'ai passé des super soirées en votre compagnie. Mes chers amis lozériens.
Le message est passé, auditeurs, auditrices, venez ce soir à la soirée Eux c'est nous. Marius, Dr Sax clôturera la soirée. Il y aura Zar Electric, Zaz, tiens, c'est très drôle, tiens, le petit lapsus de fin de direct. Zar Electric qui seront juste avant et Aubry qui commencera la soirée. Là, ça va démarrer dans quelques instants. Merci beaucoup à vous les artistes qui avez passé un peu de temps avec nous. Merci beaucoup à toute l'équipe d'RESF et merci beaucoup à toute l'équipe de la Redingote pour les accueils. Merci beaucoup à Corto qui était à la technique. On est pas mal quand même sur Radio Barta, ce 107 FM, mais on va être pas mal non plus à la soirée. Eux, c'est nous. On se quitte avec le morceau préféré de Corto. J'ai pas eu le choix, il m'attache sur la chaise, sinon je peux pas rentrer chez moi. Just the Two of Us, Bill Withers, et juste après le petit jingle. Merci à toutes et toutes, bougez-vous, vive la différence, vive l'autre. À très vite sur Bartas, ciao.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Yeah.
c'est nous. La soirée emblématique organisée par l'association La Redingote revient.
Le mardi 26 juillet, à partir de 17h30, rendez-vous sur la place de Vébron.
Une soirée placée sous le signe de la solidarité et du partage en faveur des migrants. Et oui, eux, c'est nous.
Au programme, un plateau radio avec Radio Bartas.
Et des concerts, Aubry.
Zare électrique.
Docteur Sax.
Eux, c'est nous, proposé par la Redingote.
C'est à Vébron le mardi 26 juillet.
En partenariat avec le Zepto de l'été,
Réseau Éducation Sans Frontières
et Radio Bartas.